Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, son Fils, notre frère. Bienvenue à chacun et à chacune pour ce temps de culte. Nous saluons celles et ceux qui nous regardent de leur domicile en France ou à l'étranger. Comme vous le savez depuis de nombreuses semaines, ce culte sera suivi de l'Assemblée générale de l'Association cultuelle et de celle de l'Entraide. Un petit détail que je voudrais partager avec vous. Je voudrais vous donner une précision concernant les chants, en particulier ceux des spontanés. Les cantiques, vous l'avez observé, sont en nombre réduit parce que c'est difficile de chanter avec un masque. Seulement trois sont retenus pour la liturgie, celui de l'annonce du pardon, celui de la confession de foi et celui de la bénédiction. Les cantiques sont au nombre de deux, un psaume du psautier français et un cantique du recueil Louange et prière. Merci de cette patience qui est toujours due à ce temps de déconfinement de plus en plus progressif. Alors, chers amis, frères et sœurs dans la foi comme en humanité, que ce culte nous rassemble, auprès comme au loin, et qu'il soit pour chacun, chacune, un moment de prière, de ressourcement, de reconnaissance et de communion les uns avec les autres. Loué sois-tu, éternel Dieu de la vie, pour la joie que tu nous donnes, pour l'attente qui fait de nous des hommes et des femmes en éveil. Loué sois-tu pour les matins ensoleillés, pour les couleurs et les senteurs de l'été, pour les petits bonheurs donnés, mais aussi pour les solitudes portées, les larmes effacées, les angoisses passées. Loué sois-tu pour celles et ceux qui se dévouent aux autres, pour celles et ceux qui prient pour ceux qui n'en ont pas toujours le temps. Loué sois-tu pour celles et ceux qui se réjouissent et pour cette immense espérance qui nous habite. Oui, loué sois-tu, éternel Dieu de la vie, Dieu de l'espérance. Amen. Et je vous invite à poursuivre notre louange en prenant maintenant le chant du psaume 92. Oh, que c'est chose belle de te louer, Seigneur. Et de ce psaume, nous chanterons les quatre strophes. Je vous invite à vous lever.
Oh,
Prenez place. Écoutons maintenant la volonté de Dieu à notre égard, en retrouvant l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres, car toute loi se résume dans ce seul commandement : aime ton prochain comme toi-même. Prions ensemble. Éternel, nous nous présentons devant toi tels que nous sommes, avec nos enthousiasmes et nos intuitions, mais aussi nos peurs et nos découragements. Lorsque l'obscurité nous saisit, lorsque nos errances nous mènent sur des routes chaotiques, nous nous perdons dans de vaines agitations pour retrouver le chemin ou tenter de mettre de l'ordre dans ce qui est dispersé. Nos propres forces manquent pour parvenir à des solutions. Viens, Éternel, dans nos vies. Nous savons qu'en toi, l'espérance, la confiance mènent vraiment à un avenir différent, à un jour nouveau, dans lequel ta présence nous relève et nous bénit. Viens, Éternel, dans nos vies. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon que Dieu nous donne. Dieu est amour. Il entend la confession de notre cœur. En Jésus-Christ, notre péché est pardonné. Avec le Saint-Esprit, la puissance de vie nouvelle nous est accordée. Amis, frères et sœurs, que Dieu mette en nos cœurs l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de continuer à marcher ensemble vers son royaume. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Confessons notre foi. Nous croyons en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivions et en célébrions la beauté. Il est la source de vie. Nous croyons en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus, le serviteur mort et ressuscité, pour le pardon et la liberté de tous les hommes. Il est la valeur de notre vie. Nous croyons en Dieu qui, par son Esprit, nous unit à son Fils et assemble les croyants pour que nous combattions le mal et construisions une juste paix dans l'espérance de son royaume. Il est le sens de notre vie. Amen. Et nous chantons « Grand Dieu, nous te bénissons », cantique 69, la première strophe. À Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité.
Je vous invite à la prière. Seigneur, dans un instant, nous allons ouvrir la Bible et recevoir ta parole. Nous t'en prions. Ne nous laisse pas seuls devant ta parole. Viens à notre aide. Envoie sur nous ton esprit afin que ta parole de vie devienne pour chacun, chacune de nous. Une parole pour nos vies. Amen. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, à partir du verset 34, il est écrit: nous sommes juste après l'événement de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Jésus leur dit: « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce que je vous dis est vrai, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail, d'autres ont travaillé, et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. » L'un sème, l'autre moissonne. De ce proverbe attribué au poète conservateur Aristophane, Aristophane écrivait des pièces de théâtre, comme par exemple Les Oiseaux, pour se moquer un peu des socratiques. Et donc il avait une dent contre le changement et le progrès. Et on lui attribue ce proverbe. Et l'évangile de Jean fait de ce proverbe une projection vers l'avenir et la nouveauté, étrangement. Cela a de quoi nous questionner. L'un sème, l'autre moissonne. On pourrait se dire c'est le même qui sème et c'est le même qui moissonne dans son champ. Quand Jésus cite ce proverbe, il montre à ses disciples que la moisson de Dieu est déjà là et que l'écart entre les semailles et la moisson n'a plus lieu d'être quand il s'agit des récoltes de Dieu. Ce n'est donc pas le même semeur et moissonneur, mais c'est le même temps qui est décrit ici, le temps de Dieu. Le champ de blé est déjà tout blanc de grains à moissonner alors que le semeur est encore là pour semer. Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Et l'évangile nous fait assister à une concentration du temps, une compression du temps. L'un sème et se demande toujours ce qui poussera ou non, ce qui réussira ou non, s'il fait bien de semer ici ou là. Le semeur est comme celui de l'évangile ailleurs, dans une autre péricope. Il jette des graines, mais elles tombent un peu partout et il ne sait ce qui donnera du bon grain. Pourtant, semer est un acte méticuleux et qui demande beaucoup de soins. Et celui qui sème le fait pour obtenir généralement une bonne récolte, sinon pourquoi sèmerait-il? Le semeur est toujours plein de rêves. Il a des ambitions pour ce qu'il plante. Il cherche la réussite et met avec toute la bonne volonté du monde toutes les chances de son côté, en étudiant le terrain, en regardant le moment propice et le temps qu'il fait. Pourtant, aucun semeur n'est à l'abri des vicissitudes de la météo, des maladies ou des accidents de parcours. Semer pour demain, c'est placer son espoir dans l'avenir, c'est souhaiter le meilleur pour ceux qui viendront après, c'est planter de l'espoir. Mais semer ne donne aucune garantie quant à la récolte. Une averse de grêle, une gelée trop précoce, une sécheresse trop longue, une nuée de criquets, une maladie parasitaire, et voici que le travail et la patience du semeur sont réduites à néant. Injuste, où est la justice quand rien ne dépend ni de Dieu ni des hommes? Les fléaux sont ainsi et s'abattent sur le monde sans qu'on puisse rien y faire parfois. Disons plutôt que ce n'est pas injuste, mais une inévitable malchance. Quand dans nos vies, nous semons des graines pour le futur, nous sommes toujours dans cette situation d'incertitude sur les chances de réussite. Si nous mettons un enfant au monde, et même si nous lui donnons tous les soins dont il a besoin, nous ne pouvons dire ce qu'il adviendra de lui. Et quelle sera sa vie? Ceux qui essaient d'assurer la conformité de leurs désirs avec la vie de leurs enfants ont très souvent des surprises d'ailleurs. Les changements de circonstances, les évolutions du monde se changent et se chargent de changer le cours des choses et de changer la vie des gens. Heureusement, on peut essayer d'éviter le pire en étant raisonnable et en prévoyant, mais on ne peut jamais tout prévoir. L'un sème et il est contraint à la confiance et il est soumis au risque. L'autre moissonne et reçoit ce que d'autres ont semé hier. Les héritages sont parfois lourds à porter et pas toujours à cause de l'échec des semeurs d'avant. D'ailleurs, qui pourrait juger de l'échec d'un semeur Et de quel point de vue pourrait-il le faire, puisqu'il ne peut de toute façon pas tout maîtriser? Il n'est donc pas fautif. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu dépendre de lui. Bien au contraire, l'héritage est souvent d'autant plus lourd qu'il est extraordinaire. Comment se hisser au niveau de ceux qui ont semé avec tant d'efforts et d'énergie? Et comment assumer l'œuvre colossale accomplie par nos prédécesseurs? N'est-ce pas plus vertigineux de prendre la suite d'un créateur de génie que de relever une ruine? Quand on relève une ruine, on ne peut pas faire pire. Quand on reçoit le fruit extraordinaire du travail de ceux qui ont œuvré avec brio avant nous, la pression est d'autant plus grande. Il faudra être à la hauteur. Jésus dit à ses disciples, « Moi, je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a demandé aucun travail. D'autres ont travaillé et vous, vous êtes arrivés pour recueillir le fruit de leur travail. » N'en va-t-il pas de même pour nous tous dans la foi? Quand nous passons le pas de la porte de ce temple pour vivre ensemble un culte, ne sommes-nous pas les heureux bénéficiaires d'autres qui, avant nous, ont œuvré de siècle en siècle pour la gloire de Dieu? N'est-ce pas en cette reconnaissance toujours insuffisante car insondable que nous éprouvons le vertige de nous tenir là où d'autres ont eu l'audace, le courage, l'espérance nécessaire pour faire d'un lieu de pierre un lieu de foi? Comment mesurer cet effort de nos prédécesseurs? Pourrait-on tirer un bilan de leurs efforts sans tomber dans le jugement hâtif et forcément injuste à cause de notre aveuglement inévitable, de notre impossibilité à comprendre ce qu'il a fallu d'efforts pour faire les choses? La vie spirituelle est une sorte d'équation dont les deux termes inconnus ne seraient pas des quantités, mais des qualités. Le semeur sème sans connaître ce que seront la liberté du cœur humain et les circonstances dans lesquelles il fera croître ce qu'il a reçu. Dès qu'il a semé, il abandonne ses semailles au temps et à l'avenir. Le moissonneur, lui, reçoit et récolte les fruits d'un témoignage dont il ne peut évaluer d'où il vient, sa profondeur, et ce qu'il aura fallu d'abnégation et de circonstances favorables ou non pour qu'il advienne. L'un sème sans savoir qui moissonnera, et l'autre moissonne sans savoir le don incommensurable du semeur. L'un sème, mais qui est-il? L'autre moissonne, mais qui est-il? Le semeur dont parle le récit de Jean serait-il Jésus lui-même, répandant la bonne nouvelle du salut de Dieu dans la terre fertile du cœur humain? Beaucoup de commentateurs de ce texte l'ont pensé, bien sûr. Mais alors qu'en est-il des prophètes qui l'ont précédé et dont Jésus nous assure que pas un iota de leurs paroles ne doit être abrogé? Jésus lui-même a reçu cette semence en son cœur pour pouvoir ensuite donner aux autres. Jésus lui-même est un moissonneur qui, au moment où ce récit est raconté, vient justement de moissonner jusque dans le champ des Samaritains, puisqu'il vient de rencontrer la femme samaritaine qui confesse sa foi en lui. Il vient de lui donner la conversion du cœur, une possibilité de donner une expression à sa foi qu'elle avait déjà en elle, qu'un autre avait déjà semée. Serions-nous, nous aussi, des semeurs, puisqu'à la suite du Christ, nous partageons ce témoignage avec nos contemporains, de génération en génération, et que, par nous, se diffuse la bonne nouvelle du salut de Dieu qui relève chaque homme qui le cherche, qui peut révéler la part de divin en chaque personne. Mais Jésus ne dit-il pas à ses disciples même qu'ils sont là pour la moisson pour laquelle ils n'ont pas travaillé? Il ne les appelle pas des semeurs. Il en est de ce récit comme de notre Église. Dieu s'aime. Et nous autres hommes et femmes, chercheurs et chercheuses de Dieu, nous sommes appelés à moissonner. Non pas pour faire du chiffre et être évalués sur les rendements de notre moisson, mais pour que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble, dit le texte biblique. Pour accéder à cette joie profonde d'être entré dans une œuvre qui, loin de nous rapporter, loin de nous gratifier nous-mêmes pour nos mérites, nous révèle dans nos vies l'éternité de Dieu, fruit d'une foi semée en nous par Dieu et moissonnée sans doute par d'autres croyants qui un jour nous ont ouvert les portes d'une église, d'un temple, ou les pages d'une Bible, ou les bras de la consolation, ou la voix consolatrice de la prière. Tous ces témoins sur notre route qui ont petit à petit fait grandir ce que Dieu avait semé en nous. L'un sème et notre Église moissonne. Aujourd'hui, notre Église va élire des serviteurs de la parole de Dieu qui vont prendre la suite de serviteurs qui, comme eux, avaient été discernés et élus pour conduire la moisson de l'Église. L'Église, en tant qu'institution visible de la grâce invisible, déposée en chacun de ceux qui poussent la porte de ce temple. Certains vont continuer ce service dans un nouveau mandat et aider à la réception d'un héritage qui pourrait sembler écrasant tant ce beau navire a d'atouts, d'histoire, toute cette épaisseur de vie qui se trouve ici rassemblée, dans la communion spirituelle de tous. D'autres vont servir par l'entraide et prêcher l'Évangile en aidant les personnes en difficulté, continuant leur service ou le commençant maintenant. Un tel appel, une telle vocation serait effrayante si nous étions dans une obligation de résultat, ou si nous étions les semeurs de la foi, si nous avions cette responsabilité immense de donner la foi aux autres. Mais la fidélité de l'Église ne se mesure pas à ses résultats chiffrés. Comment pourrait-on évaluer notre réussite spirituelle ? À l'affluence du dimanche matin ? De toutes petites communautés sont extrêmement riches en spiritualité. Et même s'il est réjouissant de voir ce temple plein et les offrandes de reconnaissance affluer pour nous et pour continuer notre œuvre, nous savons que tout ce que l'on peut dire dans un lieu de culte pour le remplir n'est pas toujours de l'ordre de l'Évangile, et qu'il y a parfois des procédés accrocheurs et démagogiques qui n'ont rien à voir avec l'Évangile, et ces lieux-là sont parfois pleins. Ce n'est pas un critère pour nous. Non, décidément, il est difficile de dire qu'on réussit en Église. Le seul critère pour dire qu'on est dans le vrai, qu'on est avec Dieu, qu'on est fidèle, c'est justement cette façon de rester en lien avec lui, de se souvenir que c'est lui qui sème. Être dans la probité et l'intégrité, être à l'écoute de celui qui a planté en nous cette graine un jour qui a fait que nous nous mettions au service. Mais nous n'avons pas le pouvoir sur cette foi semée en chacun de ceux qui poussent la porte du temple. Ce n'est pas un mandat de pouvoir. Notre travail à nous n'est pas de provoquer ce que Dieu seul peut faire. Notre travail à nous, c'est de moissonner le champ que Dieu ensemence. Et donc d'accueillir ceux qui viennent nous rejoindre, poussés par une foi qui n'est pas de notre fait. Et aider chacun à transformer cette foi en parcelle de royaume dans ce monde. Alors, me direz-vous, il suffit d'ouvrir grande la porte et d'attendre ? Sans doute pas. Mais le but de notre engagement à tous, que nous soyons paroissiens, bénévoles, conseillers presbytéraux, diacres à l'entraide ou pasteurs, ou que nous ayons d'autres tâches importantes à faire dans l'Église, c'est d'accueillir l'Église que Dieu crée sans cesse, pour que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble, pour que Dieu et son Église se réjouissent ensemble, c'est-à-dire créer cette compression du temps que nous décrit l'Évangile de Jean, ce temps divin où le temps des semailles rejoint celui de la moisson, où le semeur se réjouit avec les moissonneurs. Et ce n'est pas une mince affaire que de créer les conditions nécessaires à l'existence de ce temps divin entre les hommes et des femmes que rien ne rassemble a priori et qui sont pourtant venues, poussées par la même foi semée en leur cœur par Dieu. La moisson du Seigneur n'est pas l'occasion d'un bilan de la réussite des semailles que nous aurions faites, mais la reconnaissance rendue à Dieu pour les merveilles qu'il a fait naître en chacun et que l'Église en bonne moissonneuse révèle par son témoignage. Dieu sème et nous, nous moissonnons. Alors vous tous qui avez servi le champ du Seigneur depuis très longtemps, parfois, avec constance, avec patience, avec espérance, avec foi. Et vous tous qui allez entrer dans ce service avec élan, avec le tremblement des novices sans doute, vous êtes tous ensemble, avec nous vos pasteurs, les moissonneurs d'un champ que Dieu vous confie, et vous n'avez rien à craindre, car c'est lui qui a semé. Elle n'arrive pas à la fin, cette moisson, quand les talents de tous sont arrivés à maturité dans 4 mois, comme dit le récit, comme s'il fallait attendre que nous soyons tous à l'image de Dieu. Cette moisson arrive maintenant, chaque jour, à chaque heure. Les semailles et la moisson sont donc dans la même éternité. Le semeur continue sans cesse à semer dans le cœur de beaucoup qui attendent encore de trouver des frères et des sœurs qui les accueillent, pour qu'ils deviennent à leur tour eux aussi des moissonneurs et qu'ils transforment ce monde avec nous. Nous ne manquerons jamais de travail, je vous l'assure, et nous avons besoin de tous. Ce n'est pas une chaîne de semeurs à moissonneurs que nous vivons aujourd'hui. Cette élection n'est pas le remplacement des semeurs d'hier par les semeurs d'aujourd'hui. Ce n'est pas une passation de pouvoir humain. C'est un passage de témoins entre les ouvriers d'un même champ, entre les mêmes amis moissonneurs, entre serviteurs dans le champ du Seigneur. C'est une fête des moissons qui réjouit le semeur. Dieu nous aime. Alors moissonnons, moissonnons ensemble au service de Dieu, dans la reconnaissance et dans la joie. Amen. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 222, les strophes 1, 2 et 3. Et j'ai fait une erreur en communiquant les strophes, donc c'est 1, 2 et 3. Voilà, 222. Voilà, nous allons partager quelques annonces. Je pense que... Oui ? Voilà, pour annoncer la suite de ce temps.
Bonjour à tous, merci de votre présence. À la fin de ce culte, nous organiserons donc les assemblées générales de l'Apérol et de l'Entraide. Je serai très reconnaissant, nous serions reconnaissants aux personnes qui sont installées dans le chœur. À ce moment-là, il y aura un petit battement de 5-10 minutes, de bien vouloir s'installer dans la nef parce que nous allons installer sur les deux premiers rangs du chœur des tables. Table pour le bureau de l'entraide et une table pour le bureau de l'apérole. Et très vite, dès que nous serons installés, au bout de 5-6 minutes, nous commencerons cette assemblée générale. Voilà, cette assemblée générale sera suivie d'un petit pot et d'un pot fraternel qui aura lieu dans la sacristie à la fin de l'AG. Merci de votre écoute. Et puis c'est maintenant le temps de l'offrande et les diacres de notre Église vont passer parmi vous.
Juste avant que nous nous unissions dans la prière les uns pour les autres, permettez-moi de remercier simplement Aurélien Peter qui nous accompagne aujourd'hui pour ce culte. Prions. Éternel Dieu de la vie, tu nous combles de tes bénédictions jour après jour. Notre geste d'offrande d'aujourd'hui en est un modeste témoignage. Inspire-nous d'autres gestes d'offrande qui ne soient pas que des gestes matériels, mais également des gestes d'amitié, de soutien fraternel, de communion les uns avec les autres. Et pourquoi pas des marques de tendresse. L'un sème, l'autre moissonne. Merci, Éternel, pour cette parole de vie que tu nous offres. Merci de nous faire confiance lorsque tu nous appelles à ton service. Alors nous t'en prions, renouvelle nos forces. Apprends-nous encore et toujours à mieux gérer notre temps, à équilibrer les efforts, à organiser nos rencontres. Nous t'en prions, donne-nous d'apprécier comme des frères et des sœurs, non seulement dans la foi, mais également en humanité, ces hommes et ces femmes, ces jeunes, ces plus âgés que tu nous donnes dans le ministère commun de l'Église. Donne-nous de recevoir à travers la diversité de leur charisme un reflet de l'abondance de tes dons. Et à chaque moment, dans la simplicité comme dans la difficulté, dans les joies comme dans les tristesses, donne-nous de les voir, ces hommes et ces femmes que tu nous confies, eh bien, donne-nous de les voir comme tu les vois, de les aimer comme tu les aimes, de les accueillir comme tu les accueilles. Et si jamais nous ne voyons plus très clair sur les chemins de nos réponses à ton appel, de notre obéissance, du discernement de nos ministères ou de nos engagements, eh bien, béni sois-tu, Éternel Dieu de la vie, de nous appeler encore à ton service. Car la tâche n'est pas encore achevée. L'un sème, l'autre moissonne. Nous avons encore et toujours à apprendre les uns des autres avec les dons que tu nous as donnés et que nous sommes chargés de faire fructifier. Ensemble, liés les uns aux autres, malgré les distances qui peuvent nous séparer, nous te disons maintenant cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez maintenant la bénédiction de la part du Seigneur. Le Père vivifie en vous la grâce de son amour. Le Christ vivant vous accompagne toute votre vie. L'Esprit vous fait participer dès maintenant au monde nouveau. Amis, frères et sœurs, allez avec la force qui vous est donnée. Amen. Et nous chanterons le dernier cantique, 308, la strophe 5, « Bénis, ô Dieu, nos routes ».